Bonjour et bienvenue au club N'a qu'un œil, l'émission balado diffusée sur l'art séquentiel. Bonjour à tous. Afin de vous proposer l'émission la plus adaptée à vos oreilles, nous avons décidé aujourd'hui de mêler à nos chroniques diverses informations sur le monde de l'art séquentiel. Enchanté, mon cher monsieur Mathieu. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Fort bien, cher ami. Après de belles balades dans le Limousin sur les bords de la Glane, cher à notre ami Corot, je suis donc revenu ici au soleil et dans la pleine chaleur.
Eh bien, mon cher ami, je suis ravi de l'entendre. J'aurais dû vous appeler monsieur Frédéric aujourd'hui, car votre ton m'y fait fort penser. Notre ministre de la Culture appréciera. Nous allons commencer nos chroniques en parlant de l'ineffable Buffy qui lutte contre de terribles créatures aux canines allongées.
Buffy contre les vampires, saison 8 inédite, tome 8. 8, c'est bien ça, je ne dis pas d'erreur. 6 ? Non, c'est 8.
Écoute, a priori, on m'a appris à lire, et ça, c'est un 6. Hein.
Eh bien, saison 6, tome 8. Non, ah, bon, d'accord, on va dire que c'est le 6, c'est bien ça. Que nous raconte cet épisode de Buffy, donc, qui reprend encore et encore la suite. C'est une saison très très longue, j'ai l'impression. Hein. Bon, en gros, les grands méchants qui pourchassent les méchantes tueuses menées par Buffy, toute l'équipe, arrive à les repérer parce qu'elles sont tellement balèzes en magie qu'il arrive à voir leurs traces magiques. Et donc, elles retrouvent dans un bled himalayen Oz, le loup-garou, qui leur explique que lui a réussi, grâce à de la méditation, à expirer tout ce qu'il avait de magique en lui pour ne pas se transformer en loup-garou et ne plus laisser de traces magiques. Et donc, il est en train d'essayer d'apprendre à une horde de jeunes filles pleines de super-pouvoirs à faire comme si elles n'avaient plus de super-pouvoirs.
Et d'ailleurs, juste un petit truc, c'est un loup-garou assez particulier parce qu'il n'est pas toujours torse nu.
Oui, oui, c'est vrai. J'aurais cru que les loups-garous étaient... D'ailleurs, j'étais bluffé sur le coup. Ouais,
Tu te dis, mais comment c'est pas un loup-garou,
il s'est boutonné une chemise. Eh oui. Est-ce qu'ils sont forts, ces loups-garous, dans Buffy ? Ils sont beaucoup plus forts donc, que dans d'autres choses récentes. Voilà. Enfin, tu t'y connais mieux que moi, faut croire. Moi, je me contente des bandes-annonces. Toi aussi ?
Ouais, aussi. Mais c'est parce que, c'est parce que ça passe sur mon écran de télé.
Ah.
Quand je passe dans la salle à manger, des fois, il y a du Twilight. Tu fais...
Ah.
Pas des rétros, cette année.
Voilà. Bon, ben. Parlons plutôt de ce qui a quand même précédé Twilight et qui, selon moi, a permis que Twilight existe, ne le nions pas. Je ne suis pas sûr que sans Buffy, Twilight ait pu être ce que c'était. Voilà, je t'enverrai un superbe dessin de Eric Powell avec The Goon qui dit « Des vampires qui brillent, quelle connerie !» Voilà. Après cette courte aparté fort longue, vu qu'on va reparler rapidement des dessins de George Enty qui sont égaux à eux-mêmes, et j'ai trouvé par contre que le scénario, comparé à d'habitude, était vachement plus clair.
Beaucoup plus facile à comprendre.
J'avais enfin l'impression d'être dans une narration BD, de ne pas être paumé. On a un arc qui se tient en plus, qui se tient bien. On a les personnages qui ont toujours leur personnalité, qui sont toujours aussi bien exploités que tu avais dans la série. Hein. Moi, je les trouve intéressants toujours. Oui ? Non, tu as l'air...
Enfin, je peux pas avoir un bon avis. Buffy m'a déjà saoulé au niveau de la.
Oui, de la série télé, d'accord.
La série télé, donc je peux pas non plus dire c'est énorme, c'est fantastique. Bon, je l'ai lu, mais bon.
Oui, d'accord. Disons que tu as.
Bon, disons juste un truc, si je peux te couper, c'est. Oui, ils l'ont fait en BD, je comprends pourquoi. Parce que s'ils avaient dû tourner certaines scènes, ils auraient a priori flambé le budget pour toute la saison.
Oui, oui, oui. C'est clair que là, les trucs géants qui attaquent une armée avec des tirs de grenades, de lance-roquettes, des chars. Oui, c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Qu'enfin, disons que cette saison 8 évoluait tranquillement, mon seul truc qui me choque un peu, c'est que j'aimerais bien qu'un jour la saison 8 finisse. qu'on arrive enfin à la saison 9 inédite, entre guillemets, qui s'arrive à clôturer l'arc gigantesque avec leur ennemi inconnu, on ne sait pas qui c'est, et on essaye tous de chercher dans les vieux personnages en se disant « Ah, peut-être que c'est Spike, on ne l'a pas encore revu !» Enfin, tout ça, quoi. Quoi ?
Et là, tu vois, je viens de voir la lumière, en fait. D'un coup, je réalise donc l'ennemi, qu'en fait, on ne le connaît pas. Tu vois, je me suis dit « C'est peut-être un truc que j'ai raté dans la série télé. »
Ah non, on ne sait toujours pas qui c'est. Ouais, c'est...
Heureusement que j'étais assis, disons.
Ah ouais, on voit que tu les as lus avec attention, les Buffy.
Même pas aux toilettes.
Même pas aux toilettes, oh. Enfin voilà, bon, que dire d'autre ? Moi, je trouve que ça se lit tranquillement. On est vraiment dans notre vieille rubrique Easy Reading que nous avons abandonnée car nous n'avions pas assez d'Easy Reading. Buffy aurait trouvé une très belle place.
Largement.
Largement. Je noterai toujours les superbes couvertures de Jo Chen qui sont bluffantes. Je les trouve superbes. Les personnages sont très très ressemblants, ce qui n'est pas toujours le cas avec les dessins de George Gentil, mais lui il doit se prendre 22 pages par mois, et pas une couverture par mois. C'est pas exactement la même approche.
C'est pas le même rendement, quoi. Tu peux pas trop fignoler quand même.
Et qui George Gentil est très honorable dans sa narration. Rien d'exceptionnel, mais très sympathique. Donc si vous avez aimé Buffy, comme moi, continuez à les lire, ça vaut le coup. Et il y a un petit mieux, en tout cas.
Puis il y a un retour, on va dire, c'est que là aussi toute l'équipe se reforme.
Ah bah oui, hein,
surtout ça qui fait aussi que c'est plus facile.
On a la bande à Scooby du début, hein.
Oui. Eh oui.
Eh oui.
Sauf qu'il n'y a pas Angel.
Angel. Oh. Oui, bon, enfin bon, c'est pas une perte. Quoi ?
Face aussi.
Ouais.
Non mais attends, elles y sont plus.
Ouais. Bon bah si elle y est, Face. Tu rêvais ou quoi, elle y est, Face ? Oui, c'est ce que je disais, tu dis ça de façon super attentive. Quoi.
Ah, non, là j'étais démasqué, tu vois, sur le coup. C'est bon, passons à la suite.
Grande nouvelle! Le 17 septembre prochain, le détective félin Black Sad sortira son 4e tome chez les éditions d'Argo. En attendant, les plus impatients peuvent se ruer sur le site de L'Express pour lire ce tome en prépublication.
Sans attendre, nous allons faire la chronique des Ultimates Avengers, tome 2.
Déjà le tome 2.
Déjà. Le easy reading va vite. Hein. C'est surtout...
Oui. Les Ultimates nous ont habitués à un rythme de parution super... comment dire ? Rapide. De quoi que ça nous parle que ça ?
Petit retour en arrière. Rappelons-nous qu'un certain Captain America a découvert qu'il avait un fils. Un fils qui est donc crâne rouge.
Ouais.
Et donc Nick Fury remonte une nouvelle équipe d'Avengers.
Ouais, enfin, avant c'était les Ultimates, c'était pas les Avengers, les Avengers n'existaient pas dans cet univers encore. Mais bon, ouais.
Il monte une nouvelle équipe.
Voilà.
Ouais. Avec Hulk, la Guêpe, War Machine, enfin, une sorte de War Machine, Spider-Man et.
Œil de Faucon. Oui, enfin, alors après, c'est une équipe un peu alternative, le Spider-Man.
C'est pas le vrai.
On sait pas trop qui c'est. Moi, je mise sur Deadpool, mais je sais pas pourquoi.
On ne saura pas voilà. Encore.
Le Hulk, il est un peu bidouillé aussi.
C'est un Hulk qui... le fauve, le professeur McCoy.
Ouais, c'est vrai qu'il fait plus penser à McCoy. Le War Machine, on ne sait pas trop qui y a dedans. Enfin, si, on sait qui y a dedans, mais là, il est devenu très bourrin d'un coup. C'est assez impressionnant. En gros, c'est un peu la team Black Ops des Ultimates. Tu as les beaux Ultimates qui la pètent devant. Et bien sûr, qui c'est qui finance tout ça ? C'est Monsieur Stark, sauf que...
C'est pas le même.
Voilà, créé pour l'occasion, grâce au joyeux principe de la... Comment ils appellent ça ? La rétro-continuité. C'est quand on crée un truc dans la continuité qui n'existait pas avant. Genre, en fait, il a toujours existé.
Mais on n'en parlait pas. Jamais parlé.
Voilà. Ça leur permet ensuite de faire des flashbacks où on voit ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, tu vois. Comment il s'appelle le frère Stark, déjà ? Je sais plus.
Enfin, c'est Monsieur Stark.
Oui, c'est son frère, donc, qui est blond. C'est le même en blond. Il a l'air juste pareil, en plus odieux.
Non, mais il n'est pas alcoolique, en plus.
Voilà, en plus. Donc voilà, c'est... Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu tout un tome en hors-série sur Ultimate Iron Man, où on a toutes les origines d'Anthony Stark, sans jamais apprendre qu'il a un frère. C'est ça qui est fort, quand même, au niveau de la construction. C'est toujours de l'action, hein. Donc en gros, l'équipe des Avengers va essayer de choper Captain America qui s'échappe et qui veut latter la gueule à Crâne Rouge.
C'est ça, Crâne Rouge qui a récupéré des...
Des
Des informations sur au Baxter Building qui lui permettraient justement de rouvrir les failles, je crois.
Oui, ben en gros, il a trouvé des informations qui avaient permis à Mister Fantastic de créer le cube cosmique sous l'influence de Thanos dans Ultimate Fantastic Four.
Ça y est.
C'est presque une cohérence, c'est une continuité dans cet univers. En dehors du scénario qui est péchu, qui est fun et sur lequel il n'y a pas grand chose à dire.
C'est efficace, ça va vite, c'est de l'action, ça se lit bien.
On a au dessin Carlos Pacheco qui en jette.
Des belles scènes.
Moi j'aime bien Carlos Pacheco, il y a des belles scènes, c'est une bonne continuité dans cette série-là. Marc Millar en scénar est égalé lui-même, il en fait des tonnes et c'est drôle et c'est bien mené.
Disons que moi j'attends un peu plus de... Quand est-ce qu'on va commencer à avoir les secrets, les...
Un peu de finesse peut-être.
Bah donc là on va dire que là il nous lance vraiment à donf dans l'action, mais voilà, il y a des petites pistes maintenant, il va falloir qu'on...
Bah on est dans du blockbuster, hein, je veux dire, c'est l'objectif hein, de l'Ultimate Avengers. Hein.
Oui, je suis d'accord, c'est un blockbuster, mais tu peux quand même mettre un petit peu des petits trucs intéressants, tu vois, des petites questions, ouais. Que tu pourrais retrouver sur d'autres séries quoi, qu'a déjà fait Mark Millar.
Oui, quelque chose un peu plus construit sur le long terme peut-être.
Voilà, mais disons que en même temps c'est que le tome 2, donc...
Voilà, bah, ça fait 4 tomes américains. Hein.
Oui, ça fait combien de mois?
4.
Bah voilà.
Je crois qu'il est quasiment bimensuel, je crois, aux États-Unis celui-là. Mais bon, bimestriel, pardon. Donc voilà, Ultimate Avenger chez Panini Comics pour la douce somme de 4€. Enchaînons de suite grâce à ce superbe interlude dont nous avons le secret. Le dragon est en danger. Les ventes de Savage Dragon n'ayant pas été suffisantes, les éditions Delcourt renoncent à publier un volume 2. Devant cette honte totale, le public se doit de réagir. Sauvons le dragon, achetons des coupons dragon. Offrez le volume 1 à vos amis, rachetez-le pour en remplir votre bibliothèque, et ainsi vous ferez des heureux et permettrez à tous les anglophobes de profiter de ces fantastiques aventures. Mais rejoignons maintenant le Japon qui, ne pouvant avoir d'armes, coupe des arbres pour produire de magnifiques bandes dessinées appelées manga. Nous parlerons donc maintenant du fantastique plutôt de Naoki Urasawa et du défunt Osamu Tezuka.
Un magazine rempli d'exotisme, mais malheureusement, nos chers amis japonais n'ont pas eu l'intelligence de le publier dans le bon sens. Espérons que pour plus tard, ils sauront lire de gauche à droite.
Et donc c'est le tome 4 de Pluto, l'histoire avance, on approche de la fin, qui s'achève au tome 6, si je ne me trompe. Nous continuons à suivre les douces aventures de tous ces personnages et principalement par rapport aux personnages qui ont été présentés précédemment, de cet homme dont j'ai oublié le nom allemand qui a eu son frère qui a été tué par Gesich et qui cherche un moyen de se venger, sauf que bon, ça part un peu en vrille. Et là où il y a un très sympathique retournement de situation, c'est quand il se retrouve à avoir pour garde du corps l'homme qu'il a essayé de tuer. On reste dans cet humanisme toujours le même en suivant des petites histoires qui semblent peu importantes mais intéressantes, comme un de ces personnages qui sera forcément, on s'y attend, une des cibles de Pluto, qui est un scientifique qui essaye de réparer un vieux robot chien pour lui redonner la vie, mais qui a du mal parce que les pièces n'existent plus, etc. Et toujours la présence d'Astro, de sa petite sœur, et waouh. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse se dire ces choses-là dans cette histoire.
Ouais, mais...
La chute, je suis désolé, je ne m'y attendais pas.
La chute du petit robot.
Oui.
Non, parce que on se dit, on ne peut pas toucher au Saint Graal comme ça. On peut pas réussir à se dire bon.
Surtout que c'est censé être un intermède dans
dans la série Astro.
Voilà. Donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre de faire va avoir un petit retournement scénaristique, mais.
Voilà, visuellement, déjà, on peut s'en douter.
Oui, oui, oui.
Maintenant, non, c'est...
Bon, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi magnifiquement dessiné, c'est toujours aussi, je t'ai coupé la parole, tu allais dire CCC.
C'est pas grave, je te laisse finir, moi je suis poli, tu vois.
Ouais, mais pas moi. C'est toujours un super thriller, il y a une tension terrible, des situations sur des personnages qui arrivent, même les plus odieux, à être sympathiques. Sauf les chefs du front de tuage des robots qui lui est toujours aussi...
Ouais, mais parce que c'est un peu l'extrémiste.
Oui, c'est le méchant, lui. Bref...
Surtout, je dirais, c'est ce qui vient, c'est l'alternance des scènes d'action, on va dire, où ça envoie. et les scènes où justement on a les petites discussions entre, par exemple, au tout début, le professeur et le propriétaire du chien, qui sont mais d'un calme, quoi. C'est le calme avant la tempête, mais la discussion tranquille presque, on pourrait penser, moi ça me fait penser presque à des Sergio Leone, voilà. Le bon, la brute et le truand, la petite scène avec les visages.
Oui, il y a un côté plus. Oui, moi c'est ça, c'est le côté. Il y a une alternance de moments intimistes, de moments d'action, qui permettent de maintenir une tension tout du long. Pendant tous les moments intimistes, on se dit il y a quelque chose qui va monter, quoi, qui va arriver, ça va péter.
Intimiste et même des fois contemplatif.
Oui, oui. C'est le charme asiatique. Bien, nous n'avons rien d'autre à rajouter sur ce magnifique tome qui coûte 7,35€ aux éditions Cana, et qu'il est bien, que j'attends la suite avec impatience.
Tout à fait. Et donc, il n'y aura que 6 tomes.
Il me semble.
Bah, bientôt à la fin.
Oui.
Pour une fois qu'on va finir une série avec des mangas.
Ouais. 33 ans après ses débuts, le célèbre oryctérope canadien arrive enfin en France. Cerebus le Hardvac va enfin être publié aux éditions Vertige Graphique très prochainement. Nous vous recommandons de suivre cette actualité car c'est un monument de la bande dessinée indépendante nord-américaine avec près de 6000 pages publiées pendant une période de 30 ans. Cerebus le Hardvac, bientôt chez Vertige Graphique et dans toutes vos librairies. Et concernant la BD dont nous allons parler maintenant, on peut dire, Matt, que tu m'as légèrement devancé.
Yes.
Car tu l'as acheté avant que je ne craque. Car en fait, j'ai résisté, mon portefeuille étant à sec lorsque je l'ai vu. C'était un grand conseil du site The Comics Place me concernant, qui en faisait une pub énorme. Bon, il faut dire que le monsieur en question qui tient ce site est le directeur, le conseiller littéraire des éditions Emmanuel Proust, en tout cas sur le comics. Et ça s'appelle The Last Days of American Crime. Petit résumé ?
Petit résumé.
Je t'écoute.
Bien, les Américains ont trouvé le moyen de ne plus avoir donc de circulation d'argent liquide pour arriver avec un argent seulement numérique. Et à partir de là, forcément, il va y avoir du chômage chez tous les mecs qui font des braquages.
Oui.
Parce que, bah, forcément, s'il n'y a plus d'argent liquide, il n'y a plus d'argent, on va dire, physique.
Oui. Boulot. Il n'y a plus de billets neufs, il n'y a plus de bonnes vieilles techniques, coupure de 5 en billets neufs, ça n'existe plus.
Voilà.
Oui, enfin, c'est,
même pour les rançons.
Oui. Et je le mets sur quel compte?
Alors, j'ai un petit livret A, s'il vous plaît, il me rapporte un petit peu, si on peut le mettre. Ouais. Donc voilà le pitch de départ, donc, c'est-à-dire que les Américains ont trouvé une solution donc, pour endiguer le crime. Et forcément, avant que la loi commence, germe dans l'esprit d'un braqueur l'idée de faire le dernier et ultime casse de toute l'histoire américaine.
Il veut voler une machine qui, en gros, fait des versements, c'est ça ?
C'est ça. Donc du coup, en fait, juste avant le braquage, il veut réussir le truc qui lui permettra d'être riche jusqu'à la fin de ses jours.
Et là, il est en train de monter sa petite équipe. C'est le sujet du premier tome.
C'est le sujet du premier tome.
Le scénario est intéressant en soi, manque un peu de clarté parfois, parce qu'apparemment il y a un autre élément qui a l'air important, c'est qu'il y a eu une fuite, c'est que le gouvernement américain avait eu une autre technique pour lutter contre le crime, c'est de faire une espèce de... Ah, je crois que Kyo invoque le Time Warp. Je disais, il y avait une histoire de drogue, une sorte de signal en fait.
Un signal en fait qui est émis et qui va faire que tous les grands méchants...
Donc les gens ne pourront plus commettre d'actes criminels.
D'action illégale.
Alors oui, là il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est sous-entendu dans la bande dessinée, ils en parlent clairement à la fin dans l'interview de l'auteur.
Ouais.
Maintenant j'espère que c'était pas une surprise qu'il devait nous donner en cours de route, parce que là il te spoile totalement sur les tomes suivants dans ce cas-là.
C'est pas gênant, enfin, moi j'ai lu l'interview à la fin.
Oui, que j'ai trouvé très sympathique.
Voilà, et... ça tue pas quoi.
Bah, pour parler de ta interview, c'est plutôt pas mal qu'elle soit là, parce que, soyons francs, il n'y a pas beaucoup de pages en fait dans cette BD.
On arrive très vite à la fin et on se dit, heureusement, il n'y aura que 3 tomes. J'ai déjà le premier, mais on reste un petit peu sur sa fin en se disant, il est où le deuxième ?
Voilà. En gros, clairement, je pense que les gens qui lisent l'anglais et qui le lisent bien, parce qu'il doit y avoir un peu d'argot, peuvent se sauter un petit peu sur la version anglaise, qui est à couverture souple et moins chère. Mais bon... Ah bah oui, non, mais... Là, oui, là, ce qui est bien, c'est qu'on a un super carnet de croquis à la fin, des superbes couvertures, aussi, qui sont représentées.
Ouais.
Mais Je t'avoue que d'un point de vue de l'achat, même s'il n'est pas très très cher, il te coûte...
14,95.
Si, 14,95 quand même. Ah, mais regarde, 14,95, c'est un euro plus cher que le Buffy qui est deux fois plus gros.
Oui, mais sauf que c'est au moins 4 fois mieux.
Ah oui, c'est au moins 4 fois mieux, je suis d'accord. Mais bon, nous avons donc un dessin surprenant de Monsieur Tokini. C'est bien ça ?
Greg, de son prénom.
Non. Si, c'est Greg Tokini ? Greg Tokini, oui, c'est ça. Qui a un style très particulier, avec un ancrage très caché. Parce que ça a l'air ancré, mais l'ancrage est bien planqué par la couleur qui prédomine. Il joue beaucoup sur les teintes d'ambiance. C'est-à-dire qu'on va avoir des planches très bleues, des planches très rouge-orangées, pour vraiment créer cette histoire d'ambiance. On est dans la peinture numérique, hein, clairement au niveau du style, ce qui est très très sympa et surtout une mise en scène très efficace et bien menée. Au scénario, on a Monsieur Nick Remender, qui est connu pour avoir fait Fear Agent, une bande dessinée dont j'ai entendu beaucoup de bien et que je n'ai pas lu, et qui a fait pas mal d'autres petits trucs à côté chez les gros éditeurs.
Punisher.
Voilà, il a bossé sur Punisher et je crois qu'il a fait d'autres trucs, enfin bon. C'est pas le plus important, il faut juste savoir que ce qu'il a fait connaître, c'est plus ses BD indépendantes. Et les couvertures sont faites par Alex Mahalev, qui est un homme que j'aime. Oui, oui, j'aime Alex Mahalev.
C'est ta femme qui va être contente.
Parce que franchement, ses dessins sont superbes. Et d'ailleurs, je pense que notre prochain interlude va peut-être parler de lui, tiens, pour le coup. Voilà.
Pour le coup.
Ouais, on va parler d'Alex Mahalev avec notre petite voix sympathique.
Et donc, qui a fait les couvertures donc, des trois tomes de Last Day of American Crime.
Voilà. Donc,
qui vous sont un petit peu présentés sur la page de fin du premier tome.
Quoi qu'il en soit, Mathieu va forcément devoir acheter les autres, sinon je lui pète un genou.
Ouais, mais tu sais que j'aime pas avoir les séries incomplètes.
Oui, c'est vrai. Donc, parce que c'est très, très, très sympathique. Vivement la suite.
Tout à fait.
Rien d'autre à rajouter ?
Si, je l'ai trouvé dans une petite BD, une sorte de petite boutique qui est dans les Alpes.
À Bannon.
À Bannon, qui s'appelle...
Le Bleuet. L'instant publicité. Ouais.
C'est l'instant publicité. Allez, Le Bleuet, ah bah non, c'est dans les Alpes. C'est un village, on pourrait dire, quand même, qui est assez paumé.
Oui, qui a une librairie qui vaut le coup d'y aller.
Une librairie qui est énorme. De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer dans la librairie sans repartir avec au moins un livre.
Oui, c'est une librairie vraiment superbe et on ne s'attend pas à trouver un truc comme ça dans un bled paumé comme celui-là.
C'est ça.
Voilà. Le Bleuet, moi j'aime beaucoup aussi. C'est... On en avait ramené la brigade chimérique d'ailleurs.
Je crois bien, ouais. Et puis ça. En plus, les vendeurs, quand vous leur demandez un truc, ils sont magiciens, quoi. Ça, c'est là. Ça, c'est là.
Oui, parce que c'est de la librairie, c'est un peu le nom de la rose. Hein. Disons qu'on se dit, ils ont intérêt à avoir un putain de classement pour trouver les trucs, parce que waouh.
Ils ont un classement de folie.
Ils ont un classement de folie.
Après l'échec de leur speedé-woman, Michael Bandy et Alex Mahalev annoncent Scarlett. Nous attendons cette série avec impatience aux États-Unis. Le premier tome a été rapidement épuisé pour être réimprimé. Nous espérons qu'un éditeur français se penchera sur le sujet pour nous proposer bientôt cette série de ces deux auteurs talentueux que nous avions déjà pu découvrir avec Daredevil.
Nous allons parler de Chroniques des Immortels, le tome 2 chez Paquet. Alors, attention, Matt, tu rigoles déjà de la prononciation.
Ah, écoute, je te tiens bien le lien.
Basé sur un roman de Wolfgang Holbein, scénarisé par Von Eckartsberg et dessiné par Von Kumont. Ça va ? C'était honorable ?
Ah bah sans doute, moi je parle pas allemand.
Moi non plus. Donc en gros, que raconte cette bande dessinée ? Alors le premier tome nous racontait comment un immortel, Monsieur Delany, retournait dans son village natal pour se rendre compte que ça avait été tout rasé par la méchante Inquisition et que son fils était torturé, qu'il n'en pouvait plus. Et donc le héros achève son fils. Il recueille à ce moment-là un jeune homme qui apparemment a les mêmes dons que lui. En fait, ils sont à peu près immortels. En gros, ils régénèrent, quoi.
En fait, c'était tout le village.
Oui.
Qui était justement, on se posait maudit, parce que justement tous les gens avaient ce pouvoir-là.
Voilà.
Ils sont immortels, mais quand même une certaine limite.
Voilà, fin du premier tome, il lutte contre le gros méchant du premier tome. Il le tue, même si on voit à la fin du premier tome qu'en fait c'est pas vrai.
Pas vraiment.
Enfin, qu'ils l'ont raté, quoi. Deuxième tome, ils arrivent en ville pour essayer de retrouver la mère du jeune homme qui a été enlevée et mise en esclavage.
Oui, parce qu'il y a encore des survivants du village qui sont... J'ai fait une belle phrase. Il y a encore des survivants du village qui sont en vie.
Que c'est beau, franchement. Tu es un poète.
C'est ça, des survivants en vie. Ben voilà. Ça, c'est fait. Alors, à la suite.
Ils sont avec les rescapés.
Où est-ce qu'on enterre les rescapés?
Oui.
La fameuse blague quand on est petit.
Bon. C'est basé sur une série de romans qui s'appelle Chroniques des Immortels. Et apparemment, les trois premiers tomes de cette BD seront basés sur le premier tome du roman.
C'est cela même.
Voilà, qui en compte 7, je crois, tomes.
Là, je sais pas.
Et oui. Qui est disponible chez La Talente en France. Ah ah, t'as vu un peu comme.
Ouh, on sent le mec capotassé là quand même. Hein.
Que dire? Alors, le premier tome m'avait impressionné par son dessin. Et il y a quelque chose de très surprenant dans le deuxième tome, c'est un revirement total de style.
Ou une évolution dans le style personnel du dessinateur.
Ah oui, non, mais c'est une grosse évolution pour ce coup-là. En gros, il n'y a plus d'ancrage. Autant le premier tome avait un côté très sympathique, c'est-à-dire les personnages principaux avec un côté un petit peu dessin animé, avec des décors, je parle au niveau des couleurs, avec des décors qui avaient l'air beaucoup plus peinture, tout le fond. Là, on retrouve un peu ce côté... dessin animé au niveau des aplats très propres sur les personnages. On a toujours ces décors très peinture, mais l'ancrage a quasiment disparu. Ça gagne en finesse ce que ça perd en clarté de lecture. Voilà ce que je devrais dire en étant un petit peu critique.
Pourquoi en clarté de lecture?
Parce qu'on arrive moins bien à lire l'action, je trouve. On arrive moins dans une page, bah là tu en as une sous les yeux, on arrive moins à identifier où se trouvent les personnages du fait que pour le coup...
Ça manque de contraste.
Voilà, ils étaient bien ancrés, ils ressortaient par l'ancrage et là ils ressortent moins. Ça n'empêche que ça a la classe. Surtout la jolie fille de l'épisode qui est vachement jolie.
Oui.
Ouais. Voilà, ah, le dessin est superbe. Toutefois, je me permets un gros regret sur ce tome 2 qui fait 32 pages. Il y a 32 planches de BD dedans. Il a fallu attendre 5 ans pour que le tome 2 sorte, et ils nous sortent les 32 planches de BD en disant « Eh, au fait, dans moins d'un an, on vous sort le tome 3. »
Ça veut dire qu'ils ont fait le 2 et le 3 en même temps ?
Je ne sais pas, mais bon. Alors heureusement, pareil que pour The Lost Days of American Crime, ils nous font une jolie, un petit rajout à la fin avec des dessins faits par des gens de l'atelier des auteurs qui s'appelle l'artillerie. D'autres auteurs un peu plus internationaux. Et des dessins qu'ils avaient fait pour les couvertures du 7e roman, qui se passe quand même dans le futur par rapport à la série, hein, notons-le. C'est qu'à voir les costumes,
oui.
Ça se passe à Londres en 1666, je crois. C'est pas vraiment la même ambiance. Je trouve l'histoire sympathique. On a un petit côté Highlander.
Juste pour te contredire un truc là, tu vois, je tranche en deux. C'est que là, tu vois, je l'ai vu, tu vois, la série de romans allemands de best-seller La Chronique des Immortels de Wolfgang Heim, fêtée avec le tome 11.
Ah, c'est 11, pas 7, pardon.
11, Braise et Cendre, son 10e anniversaire. À cette occasion, a été mandaté pour faire un joli. Voilà.
T'as vu comme j'ai potassé, c'était écrit à la fin en fait.
Ouais, enfin bon, de 7 à 11, il y a quand même.
Oui, bon, ça va. Hein,
hein.
Bon, question bête, toi qui lis beaucoup de cycles de fantasy, est-ce que ça te donne envie de le lire? Ce cycle Chronique des Immortels.
Bah, en fait, comme j'avais aimé le premier tome...
Mais je te parle en livre, je parle pas en BD. Je te parle...
Le livre lui-même. Quand même.
Quand même.
Parce que je me dis que... Je pense qu'il y avait beaucoup de détails qui ont dû être quand même un petit peu édulcorés dans la BD. Ça peut être sympa d'avoir justement un peu plus de l'ambiance du...
Est-ce que tu es d'accord quand même que c'est une thématique très classique? On est dans Highlander, hein.
Oui.
Oui. Ah oui, non, mais il y a un secret pour les tuer. Il faut...
Percer le cœur.
Oui, leur percer le cœur. Quelle originalité. Bon, en soi, j'ai quand même trouvé la série très sympathique. Les couvertures choquent aussi un peu parce qu'elles sont très très loin de l'intérieur en général.
Ce qui est le cas quand même dans maintenant beaucoup de bandes dessinées.
Mais pourtant c'est le même dessinateur, c'est ça qui choque en fait. Mais
pour une fois, ça a été fait maison.
Oui, voilà. C'est intéressant, c'est Chronique des Immortels, c'est chez Paquet, ça coûte 13€, ce qui quand même... Étant donné le faible nombre de pages, reste raisonnable quand même. Je veux dire, on aurait pu avoir un truc un peu plus cher. C'est un bel ouvrage.
Et le troisième et dernier tome aura bientôt.
Voilà. Et d'ailleurs, on va se le faire avec notre voix magique. Nos lecteurs n'auront que peu de temps à attendre le tome 3 de la Chronique des Immortels qui arrivera en janvier 2011. Qu'on se le dise. Coma
de Vazem et Peters.
Chez
les humanoïdes associés.
L'intégrale vient de sortir, enfin elle est sortie il y a vraiment peu. C'était à l'origine une bande dessinée en 6 tomes, en couleur, en format classique BD. Ils nous ont sorti un intégrale en format comics, on va dire, à peu près, à peu de choses près. Un beau pavé en papier glacé.
Un beau pavé.
Que je me suis trimballé pendant mes vacances pour le lire, et autant te dire que...
Ça fait lourd dans le sac.
Ouais, je l'ai bien senti. Ça coûte 24,95€. Et ça raconte une histoire assez sympathique que tu vas nous résumer maintenant. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire.
C'est ça.
C'est ton tour.
C'est mon tour. Ben, le résumé d'histoire, donc, c'est une petite fille et son papa. Ça fait rêver d'un coup, ça.
Une petite fille et son papa.
Qui, donc, nettoie des cheminées, donc, dans une...
C'est vrai que ça fait rêver. Là, on est dans une ambiance de rêve. De...
Oh. Et là, à peu près, c'est du Steinbeck, quoi. Donc, du coup, ils n'ont pas le sou, ils vivent dans la pauvreté la plus totale, ils luttent pour avoir des contrats.
Plutôt qu'ils s'agissent dans l'illégalité.
Exactement. Ou... Et donc, du coup, ensuite, il va y avoir des morts, des parties de la famille qui vont partir. Non, rien à voir. Et donc, il nettoie ses cheminées, mais la petite a un petit souci. C'est qu'elle est un petit peu, peut-être, narcoleptique ou...
C'est pas trop,
elle,
en fait.
Voilà, elle s'évanouit.
Et ce qui est marrant, c'est que ça correspond à des scènes parallèles. On voit une sorte de créature qui joue avec une machine et qui a des problèmes.
Bah, visiblement, il doit souvent la redémarrer, quoi.
Ouais. Et c'est toujours à ce moment-là que la petite fille va pas bien.
Et là, on se dit, il y a peut-être un rapport. Alors, très vite, dès la page 10... Moi, en le lisant, je me suis dit, il va y avoir une révélation de la mort à la fin.
Ouais.
Et
en fait, très vite, la révélation, elle a lieu avant la fin, en fait.
Une première révélation.
Oui.
Mais on se dit, il doit y avoir. Moi, je me suis dit, il va y avoir un truc à la fin.
Une révélation de la révélation de la révélation.
Voilà, le truc à la fin, quand tu arrives au bout, tu fais, bon, maintenant, j'ai eu la révélation finale.
Quand tu arrives au bout, t'as lu pas mal de pages, hein, déjà.
Ouais, il faut que je relise.
280.
Ouh. Bon, je n'ai pas relu, mais il y a quand même la révélation qui tue à la fin.
L'histoire oscille constamment entre la comédie et le drame. Je trouve qu'ils arrivent à te raconter des choses dramatiques de façon drôle.
Ben sur la case graphique, je dirais, ça ressemble. Moi, il y a des moments, ça me fait vraiment penser à du Will Eisner, ouais. Avec justement, voilà, ce côté. J'ai des personnages qui sont vraiment des caricatures, qui sont.
Moi, c'est Will Eisner rencontre leur sonnet.
Tu vas plus loin, c'est pas faux.
C'est un mélange, ouais. Voilà, faut se faire une idée, c'est bizarre, mais la petite fille a un côté, enfin,
ouais.
le trait, l'ancrage assez sombre dans toutes les scènes souterraines, enfin voilà. Et c'est un côté onirique, et puis il y a des grands méchants du gouvernement, et enfin c'est difficile de résumer ces 600 pages sans trop en révéler, parce que c'est une BD qui est un peu axée là-dessus. Des personnages attachants. Des personnages, même ceux qui ont l'air, par exemple, il y a un médecin, le médecin, je l'ai trouvé un côté pathétique, mais à la fois, on comprend, on arrive à se mettre à sa place. Le gars, il est menacé de mort s'il ne torture pas une créature, quoi, à la dépecer. Et le mec, il ne se retrouve à pas avoir le choix, il n'en peut plus d'être désolé, parce qu'en gros, on lui dit, s'il ne le fait pas, c'est à lui qu'on va le faire. Alors, je résume pas mal. Hein.
C'est à peu près ça.
Voilà. Des moments, mais qui sont d'une dureté, d'une froideur, quand il explique comment est-ce qu'il fait pour dépecer les gens. La méthode, je ne l'ai jamais fait, mais voilà ce que j'en ai retenu. Pour dépecer quelqu'un, voilà ce qu'il faut faire. Enfin, le gars rentre. Ouh. Et à côté, parfois, des petites piques naïves. Parce que la petite fille a un côté parfois un peu naïf.
C'est comme dans les westerns.
Ouais, ouais, elle compare tout ce qui lui arrive, comme dans les westerns. Alors, toutes ces stratégies d'action, c'est comme dans les westerns. Les héros sont comme dans les westerns. Et c'est une belle histoire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Il me semble que tu as été un peu déçu par la fin.
Je ne vais pas raconter la fin, mais voilà. Comme j'ai dit, dès le début, je me suis dit, il va y avoir une grosse révélation à la fin. Oui, il y a une grosse révélation à la fin. Et du coup, ça m'a un petit peu déçu. Peut-être que j'avais trop d'attentes, on va dire. Peut-être que ouais. Moi, j'imaginais d'autres fins possibles. Moi, j'en avais une autre en tête. Mais bon, voilà. L'intégralité de l'histoire vaut quand même le détour. Et c'est quand même bien intéressant de voir le monde qui a été créé.
Oui. Alors, un autre truc qui est intéressant, je trouve, c'est un intégral en noir et blanc. C'est devenu vachement à la mode, hein, les intégrales en noir et blanc. Est-ce que tu penses que la couleur manque ou pas?
Franchement, non.
Non.
Parce que sinon, ça aurait pas fait Willisner.
Ouais, ça aurait pas. Ouais, mais sur certaines planches, peut-être. Je suis pas sûr, mais c'est vrai que il y en a très peu, très très peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a un ancrage qui est assez marqué. Donc, en fin de compte, oui, effectivement, on peut assez facilement se passer de la couleur.
Mais en même temps, par contre, ouais. Juste une petite chose. Pour ceux qui liront Coma, il faut chercher. À un moment, il y a ton jumeau maléfique dedans, je crois.
Mon jumeau maléfique.
Ouais.
Qui c'est mon jumeau maléfique?
C'est le One Eye Club, donc cherchez bien où est le jumeau maléfique de One Eye Pied.
D'accord. Il va falloir que je me replonge dedans pour saisir ton allusion. Avant de s'attaquer à notre rubrique online, on avait beaucoup de presque neuf dedans. D'ailleurs, pour la prochaine émission, on aura un presque neuf qui gagnera le prix du meilleur presque neuf d'office. Mais là, dans le presque neuf qu'on a eu, si tu ne devais en avoir qu'un seul, lequel serait-ce ? Enfin, ne parle pas que des tiennes, hein, tout confondu. Qu'est-ce que tu as préféré de tout ce qu'on a eu là ? Attention, The Last Day of American Crime. Ouais.
Ouais, là je vote maison, écoute, c'est à moi, mais c'est trop bien.
C'est trop bien. Bah moi je vote très commun quand même. Je vote aussi maison. Parce que The Last Day of American Crime, j'avoue que j'attendrai le troisième tome pour vraiment me faire une idée. Je trouve ça très bien mené. Maintenant, typiquement sur ce genre de polar noir, il faut qu'il y ait une chute qui tienne la route pour que ça ait été vraiment intéressant du début à la fin.
Ok. Ok.
C'était mon point de vue.
Tu noteras quand même que Buffy n'a jamais gagné le meilleur titre.
Ah non, mais c'est pas possible. Hein. On va dire que je l'achète, mais parce que...
Voilà, on fait de la BD de qualité. Nous, monsieur.
Oui. Ah, heureusement que je suis là pour acheter un peu des merdes, des fois. Des fois.
Des fois.
On enchaîne. Grâce au nouveau format de télécommunication, l'éditeur Manolo Sanctis propose à tout à chacun de publier son œuvre afin d'être vu grâce à des Minitel évolués. Si votre œuvre est de qualité, l'éditeur s'engage à faire un réel travail éditorial afin de vous publier. Mais toutefois, ne désespérez pas si vous n'êtes pas sélectionné. Vos œuvres sont toujours susceptibles d'être choisies par un autre éditeur. C'est le cas des aventures de Piggy que nous allons chroniquer d'Airchef. Alors, Manolo Sanctis, site internet très intéressant qui, je pense, va être la base de beaucoup de nos prochains online. Parce qu'il y a vraiment
parce un paquet... Parce que c'est très, très riche.
Très, très riche. Bon, en gros, clairement, c'est une sorte de Facebook pour créateurs de BD. Bien résumé. Ouais, il faut être inscrit pour se rendre dessus pour se rendre compte comment ça marche.
J'aurais dit My Own Company, tu vois, plutôt...
Plus proche d'un Facebook. C'est vraiment du réseau social. Et c'est plus loin d'un My Own Company pour une raison très simple... C'est qu'on ne demande pas aux lecteurs mais... de mettre des sous dedans.
Oui, mais tu peux participer, entre guillemets, à...
Oui, pour dire si tu aimes.
Si tu aimes, si tu n'aimes pas, tu peux donner des conseils, tu peux dire
plein de choses. Tu peux promouvoir, envoyer le lecteur quelque part,
voilà,
etc.
Voilà, donc c'est...
Non, mais est plus proche, pour moi, c'est plus proche du Facebook. C'est je partage mes créations et j'en retire des critiques. Je me crée un réseau social autour de mon travail. Quand tu es inscrit, je m'y suis inscrit hein, pour dire du bien, du mal, etc., j'ai vraiment.
Tu fais travailler la famille encore.
Oui, bon, mon frère a mis ses trucs dessus, BD-book. Ça va.
On peut l'appeler BD-book, tiens.
Ouais. Quoi qu'il lance. Non, je n'ai pas critiqué le travail de mon frère, car je considère que je ne peux pas critiquer le travail de mon frère.
Parce qu'il est mauvais, de toute façon.
Voilà, c'est ça. Quoi qu'il en soit, j'y ai découvert Les Aventures de Piggy. C'est une recommandation de mon frère, effectivement, voilà, pour le coup. Mais ce n'est pas de lui, qui est vachement drôle. De quoi ça nous parle ? C'est une cigogne qui fait un mauvais atterrissage et qui s'écrase, se casse l'aile et donc ne peut plus apporter le bébé à la famille à qui il était destiné. Elle décide donc de le confier à un lapin et un canard qui sont mais d'une stupidité confondante. Heureusement, un cochon, un peu plus intelligent que la moyenne des autres, vient les aider. Par exemple, pour te donner l'idée de la bêtise, à un moment, le canard pense avoir une très très bonne idée. C'est de fabriquer une catapulte pour envoyer le bébé à destination.
Ça aurait été faisable.
Voilà. Sauf que, bien sûr, il lui dit « Non, mais t'es malade, mais tu peux pas faire ça. » Et là, il fait « Non, mais t'as raison, on est bête, il faudrait qu'on essaye d'abord pour voir si ça marche. » Alors, comme tu es volontaire, ils mettent le cochon dans la catapulte qui, en fait, l'écrase à 2 mètres de destination contre le sol. Bon, ça, c'est très, très drôle. Ça fait beaucoup de pages. Il y en a près de 400 pages. Et ça a eu la chance de ne pas être sélectionné par Manolo Sanctis, mais par les éditions War Room, qui vont, eux, proposer de le publier.
Je reviens juste sur ta phrase. Ça a eu la chance de ne pas être choisi par Manolo Sanctis. Manolo Sanctis est un très bon éditeur aussi.
Oui, non, mais quand je dis la chance, c'était pour dire... Voilà, oui, excuse-moi. Ils ont eu la chance, virgule, même s'ils n'ont pas été choisis par Manolo Sanctis, virgule. Ouais, c'est bon, je corrige, c'est ce que je voulais dire.
Bah oui, mais justement, il vaut mieux le dire parce qu'on est quand même un peu d'accord, on est un peu fan de leur boulot. Si en plus tu dis après qu'ils sont mauvais, c'est peut-être pas sympa.
Ouais, voilà. Bon, de toute façon, on dira plus de bien de leur travail d'éditeur
dans la prochaine
émission. Bref, c'est très très sympathique. On va quand même donner le nom de l'auteur, c'est la moindre des choses. Il s'agit de Reineke, qui donc a un style de dessin très simple et très sympathique. Voilà, bien sûr, tu ne l'as pas lu. Hein.
Si, tu m'as fait passer la truc, mais j'étais un petit peu occupé.
Mais c'est pas grave, je me suis vengé, je t'ai fait lire un truc que j'ai pas lu. Donc,
voilà.
On en parlera la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Eh bien, nous avons fini. Et puis, bah, on va pouvoir enfin conclure.
Et c'est ainsi que s'achève le club N'a qu'un œil. Comme à l'accoutumée, vous pouvez nous joindre sur nos nombreux moyens de communication micro-électrique. Ainsi, sur le site Twitter, il est possible, en tapant le mot de passe One œil pied, d'avoir toutes les nouvelles. De la même façon, sur iTunes, vous pouvez nous laisser, à défaut de thunes, des commentaires. Mon ami, qu'avez-vous à rajouter à toutes ces informations riches et captivantes ? Exactement, je ne peux qu'acquiescer. Merci à vous. À dans 15 jours pour notre nouvelle émission bimensuelle.
Dans la France de René Coty.